VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 mars 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les États-Unis prennent de nouvelles sanctions contre des responsables de la CENI congolaise, dont son président Corneille Nanga.
Au Mali, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdrahman Babi, venu présenter des condoléances à Nioro, a été refoulé hier par les familles de soldats tués.
En Algérie, appel à de nouvelles manifestations aujourd'hui pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans.
En Chine, une voiture fonce dans la foule, faisant 6 morts dans le centre du pays. Le chauffeur a été abattu par la police.
Ici à Washington, le président Donald Trump se dit favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur la partie du plateau du Golan syrien occupée et annexée par l'État hébreu.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Nouvelles sanctions américaines contre les autorités de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le département du Trésor américain accuse Corneille Nanga, président de la CENI, son vice-président Norbert Bazengezi et son conseiller Marcelin Mukolo d'une vaste corruption qui a sapé le processus électoral. Des détails avec Eddie Isango.
Sous les sanctions annoncées jeudi par Washington, les actifs des messieurs Nanga, Bazengezi et Mukolo sont gelés. Il est interdit aux Américains d'effectuer des transactions avec eux. Sigol Mandelker, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a fait savoir que les sanctions font suite à la corruption persistante des hauts responsables au sein de la CENI, de la RDC et de l'ancien gouvernement Kabila. Et cette corruption s'est faite, selon lui, dans le but d'empêcher de retarder la préparation d'élections crédibles et inclusives. Les documents citent des détournements de fonds dans des opérations de la CENI depuis 2016. Les trésors américains révèlent notamment que des responsables de la CENI ont gonflé des 100 millions de dollars les coûts du contrat de la machine à voter électronique dans le but de s'enrichir sur les fonds excédentaires et aussi de soutenir les coûts des campagnes électorales du candidat Kabila. Ces sanctions tombent alors que des suspicions de corruption ont entaché les élections sénatoriales d'il y a plus d'une semaine. Lundi, le président Félix Tshisekedi a, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, suspendu l'installation des sénateurs et reporté sine die les scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs. Washington dit soutenir le peuple congolais dans la lutte contre la corruption. Les 3 personnalités congolaises visées avec le procureur de la Cour constitutionnelle étaient déjà interdites depuis 1 mois des séjours en territoire américain.
Au Mali, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdrahman Babi, venu présenter ses condoléances hier à Nioro, dans l'Ouest, a été conspué par les familles de militaires tués dans le centre du pays au cours d'une attaque qui a fait 26 morts. Un précédent bilan de cette attaque à Djoura le 17 mars s'élevait à 23 morts. De Bamako, des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Tout est parti de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts. Nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaire devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur les champs de l'honneur, plus la population de Nioro qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdrahman Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron ne pourra pas se rendre le 7 avril à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Il sera représenté par le député Hervé Berville, orphelin d'origine rwandaise, adopté à l'âge de 4 ans en 1994 par une famille française, a appris l'AFP de sources concordantes. Selon une de ces sources, le squad de M. Berville incarne la volonté de M. Macron de construire une nouvelle relation avec le Rwanda. Près d'un quart de siècle après le génocide, le rôle joué par la France au Rwanda reste encore un sujet hautement polémique, objet de tensions récurrentes entre Paris et Kigali.
En Algérie, un mois après le début de la contestation, les protestataires entendent rester mobilisés avec de nouvelles manifestations ce vendredi pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans et dont le camp se fissure. Les deux précédents vendredis ont vu une mobilisation record. Le 15 mars, des manifestations ont été enregistrées dans 40 des 48 préfectures du pays, selon des sources sécuritaires, et des diplomates ont évoqué des millions d'Algériens dans les rues. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
En Afrique australe, des milliers de personnes bloquées sur des toits ou affamées dans des zones inondées à perte de vue continuent d'attendre anxieusement des secours, encore trop lents à se déployer après le passage la semaine dernière du cyclone Idai. Près de 400 morts, plus de 10 000 habitations détruites, des centaines de milliers de personnes touchées. Au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan du cyclone, des inondations et glissements de terrain a continué de grimper hier, alors que les humanitaires mettaient en garde contre le risque d'épidémie de choléra.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Chine, un conducteur a foncé intentionnellement vendredi dans la foule dans une ville du centre du pays, tuant 6 personnes avant d'être abattu par la police, a annoncé la télévision nationale. 7 blessés ont été hospitalisés. Le drame a eu lieu dans la commune de Zhaoyang, dans la province du Hubei.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier être favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, rompant ainsi avec la position de la communauté internationale et celle adoptée depuis des décennies par les États-Unis. Des précisions avec Nanit Talani.
Après 52 ans, il est temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui a une importance stratégique pour l'État d'Israël et la stabilité régionale, a tweeté Donald Trump au moment même où le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se trouvait à Jérusalem. « Merci, président Trump », a immédiatement tweeté à son tour Benjamin Netanyahou, juste après l'annonce de l'ancien homme d'affaires new-yorkais dont il a loué le courage. À l'approche des élections législatives du 9 avril, cette annonce est un véritable coup de pouce pour le premier ministre israélien qui réclame cette reconnaissance avec insistance et est attendu à la Maison-Blanche en début de semaine prochaine. Israël a conquis une grande partie du Golan, soit 1200 km² lors de la guerre des six jours en 1967 et l'a annexée en 1981. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion.
Pour rappel, le président Trump a reconnu en décembre 2017 Jérusalem comme la capitale d'Israël.
La Syrie a rejeté, quant à elle, comme une violation flagrante du droit international, la déclaration du président américain sur le plateau du Golan. L'union des milliers de Néo-Zélandais, dont la première ministre Jacinda Ardern, se sont rassemblés ce vendredi à Christchurch pour rendre hommage aux 50 musulmans tués dans cette ville par un extrémiste australien. Un appel à la prière a été diffusé dans tout le pays et 2 minutes de silence ont été observées. L'auteur de la tuerie commise dans 2 mosquées de Christchurch a brisé le cœur de millions de personnes à travers le monde, a déclaré l'imam Gamal Fouda qui menait la prière. Aujourd'hui, au même endroit, je regarde autour de moi et je vois l'amour et la compassion. La Nouvelle-Zélande ne peut être brisée, a-t-il dit.
L'Union européenne a demandé hier la libération immédiate de Roberto Marrero, le chef de cabinet du leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, et exigé que sa sécurité soit assurée. Des détails avec John Lyndon.
L'Union européenne demande la libération immédiate et inconditionnelle de Marrero et tient les autorités compétentes responsables de sa sécurité et de son intégrité, a annoncé la porte-parole de la diplomatie de l'Union européenne dans une déclaration publiée pendant un sommet européen à Bruxelles. L'Union européenne a indiqué que l'immunité des membres de l'Assemblée nationale doit être respectée en toutes circonstances. Les services de renseignement vénézuéliens ont arrêté Marrero à son domicile tôt jeudi. Ils ont également interpellé le député d'opposition Sergio Vergara, qui vit à proximité de Marrero. Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, a laissé entendre que cette arrestation, qu'il a par ailleurs dénoncée, est une manœuvre vile. Il a prévenu qu'il ne se laisserait pas intimider. Pour lui, le gouvernement de M. Maduro essaie d'installer la peur dans les rangs de l'opposition et expose sa faiblesse en agissant ainsi. Le Venezuela est plongé dans une profonde crise politique, économique et humanitaire. Juan Guaido, le président de l'Assemblée, s'est proclamé président par intérim le 23 janvier, contestant la régularité de la réélection de Nicolas Maduro.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Congo-Brazzaville vient de signer un accord de crédit de 123 milliards de francs CFA avec l'ONU. La Tribune, qui rapporte cette information, confie que ce crédit, qui couvre la période 2020-2024, va permettre au pays de réaliser son plan de développement et ses objectifs de développement durable. Selon la ministre congolaise du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Olga Ghislaine Ingrid Ebukas Babakas, 31,53% du montant sera consacré à la bonne gouvernance, 40,29% à la valorisation du capital humain et 28,16% à la diversification de l'économie nationale. Le gouvernement de la RDC s'est résolu à poursuivre l'exportation de concentrés de minerais non entièrement transformés sur place, le temps de trouver une solution au manque chronique d'électricité qui pénalise son industrie. En principe, les opérateurs miniers du Katanga sont tenus à exporter des produits finis, c'est-à-dire traités et raffinés sur place, pour dégager le maximum de revenus. Mais les capacités de production et de transformation des usines sont limitées en raison de problèmes d'alimentation électrique. Terminons avec la Côte d'Ivoire où le taux de pauvreté recule, mais l'objectif de le réduire de moitié entre 2011 et 2020 ne devrait pas être atteint, a reconnu le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Selon les prévisions des autorités, ce taux sera à 25% en 2020, alors qu'il était de 51% en 2011.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Éliminatoire Cannes-Égypte 2019, dernière journée cruciale pour le Burkina Faso ce soir.
Oui, les étalons affrontent ce soir à Ouagadougou les Mourabitounes de la Mauritanie à 17h temps universel. La tâche s'annonce difficile pour les Burkinabés qui devront non seulement gagner, mais aussi compter sur une défaite angolaise ou un match nul à Francistown entre le Botswana et l'Angola. Notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré, a assisté à la conférence de presse du sélectionneur Paulo Duarte. Voici son compte rendu.
Les étalons du Burkina Faso ont le dos au mur et ils ont décidé de changer de stratégie. Paulo Duarte va jusqu'à même dire qu'il prendra des risques.
Attaquer l'adversaire pour marquer, même sous le bain, je vais courir de risques. Je vais apporter normalement un bain de remplacement. On doit avoir l'équilibre.
Alain Sibiri Traoré, Patrick Malo et Bertrand Traoré sont incertains pour cause des blessures. Mais Jonathan Pitroapa reste confiant.
Ça fait quelques temps que j'enchaîne les matchs, donc je pense que voilà, je suis à mon meilleur niveau maintenant, donc je suis très heureux de pouvoir enchaîner les matchs. Maintenant, si je peux apporter un plus à l'équipe, je ferai mon possible comme je l'ai toujours fait pour l'équipe nationale et puis avoir la qualification.
Arrivé jeudi matin à Ouagadougou, l'entraîneur adjoint des Mourabitounes, Moustapha Sall, a au cours d'une conférence de presse promis de ne pas faire cadeau aux étalons du Burkina. Ouagadougou, Salif Kabouré, VOA Afrique.
Dans le groupe B, le Cameroun tenant du titre n'a toujours pas validé son ticket.
Oui, pour cela, les Lions indomptables devront se débarrasser des Comores très revanchards. Ailleurs, il y aura un match bouillant à Cotonou où le Bénin affronte le Togo. Les deux équipes peuvent encore décrocher leur ticket. L'Afrique du Sud effectue un déplacement périlleux en Tunisie pour affronter la Libye. C'est chaud aussi dans le groupe G où toutes les équipes espèrent être à Égypte 2019. Zimbabwe, Congo et République démocratique Libéria sont à suivre. Le groupe K reste tout aussi indécis. La Zambie déjà éliminée peut jouer les arbitres en recevant la Namibie. En face, malheur au vaincu lors de Guinée-Bissau-Mozambique. Et bien évidemment, nous finissons en basketball avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Charlotte et Minnesota, 113 à 106. Denver et Washington, 113 à 108. Atlanta et Utah, 117 à 114. Détroit et Phoenix, 118 à 98. Sacramento et Dallas, 116 à 100. Golden State et Indiana, 112 à 89. Votre compagnie Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a initié un programme de soutien aux familles pauvres qui vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Le projet Lisungi consiste à financer de petits projets pour autonomiser ces familles qui représentent plus de 46% de la population congolaise. De Brazzaville, reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Ce programme vise plus de 9300 ménages. Chaque famille jugée pauvre, celle vivant avec moins de 2 dollars ou moins de 1000 francs par jour, peut prétendre à Lisungi. La ministre des Affaires sociales Antoinette Ndinga-Njodo conduit ce projet.
L'objectif principal du projet Lisungi, c'est le développement du capital humain. Donc c'est d'arrêter la transmission intergénérationnelle au niveau national 46,50%. Mais au niveau des départements, vous avez des départements qui dépassent les 78%. Brazzaville et Pointe-Noire, bien qu'ayant un taux de pauvreté faible par rapport à la moyenne nationale, autour de 25-30%, il y a des poches de pauvreté.
Le soutien financier du projet Lisungi à chaque famille est plafonné à 250 000 francs CFA. Selon les données fournies par les autorités, le pays compte plus de 47% de pauvres dans plusieurs coins du pays, et ce malgré les masses d'argent engrangées grâce au pétrole. La pauvreté touche jusqu'à 78% des Congolais. À Talangaï, un quartier de Brazzaville, les attentes de Lisungi sont inestimables. Marie Ngoyi, agent social.
La question de la demande est très importante au niveau de Talangaï par rapport au RSU. Juste avant, nous étions déjà à 3105 demandeurs à l'inscription au niveau du RSU. Ça veut dire que, étant donné que c'est une question d'argent, et tout le monde presque s'estime pauvre.
En réalité, ce projet est opérationnel depuis 2015. Plusieurs familles ont vu leur niveau de pauvreté s'améliorer. Paul Ganongo, responsable de la communication de Lisungi.
On peut dire 4 ans après, nous sommes en 2019, on voit quand même des ménages qui, avec le peu qu'ils percevaient, sont arrivés à faire des investissements à la taille des allocations reçues. Et ça, c'est très fondamental.
Le gouvernement qui a inscrit 6 milliards pour alimenter Lisungi en 2019 envisage un jour de le réaliser à grande échelle avec des financements atteignant les 200 milliards de francs CFA l'année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme sur les exactions dans le nord du Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes. Dans un rapport publié ce vendredi, l'ONG pointe du doigt des exécutions sommaires commises à la fois par des djihadistes et les forces armées burkinabées et dont sont victimes les populations civiles. Comment dirais-je, Yacouba Ouédraogo a joint Corinne Doufka, directrice exécutive à Human Rights Watch, chargée de l'Afrique de l'Ouest, auteure de l'enquête.
Je faisais une mission à Ouagadougou pendant le mois de janvier et j'ai documenté les exactions, à peu près 42 exécutions commises pour le force djihadiste et 116 pour le force de l'ordre.
Quelles sont les personnes que vous avez interviewées pour documenter tout cela?
On avait parlé avec 92 témoins total et 61 c'était les témoins directs des exactions qu'on avait documentées.
Quand vous dites témoins directs des exactions, des gens qui ont survécu à des attaques?
Exactement. département. C'était très difficile que moi déplace sur la zone concernée, qui était la région des Sahel. Donc, on a fait déplacer les gens pour venir à Ouagadougou. Les témoins sont venus de 32 hameaux, villes et villages.
Est-ce les forces armées burkinabées ou les djihadistes qui sont auteurs présumés de ces exactions-là?
Pour les djihadistes, on a documenté 42 civils subconnus d'avoir collaboré avec le gouvernement qui était exécuté pour les djihadistes. Ils ont enlevé et intimidé les leaders locaux, piégé le village, surtout les animaux. Aussi, ils ont fait la réquisition des ambulances et ils ont fait l'interruption des campagnes de vaccination des animaux.
Vous dites que vous avez fait venir des gens du nord du Burkina à Ouagadougou, dans la capitale, pour témoigner. Est-ce que vous ne craignez pas quant à la crédibilité de ces témoignages-là?
Pour la plupart des incidents, on a parlé avec plusieurs témoins. Ils ont donné les informations très détaillées. C'est avec les détails et la triangulation qui donne aussi la crédibilité de les incidents. Plusieurs témoins ont donné l'information des exactions commises pour les deux côtés. Donc ça aussi donne la crédibilité à l'information.
On sait que pour les djihadistes, c'est difficile, sinon impossible, mais est-ce que vous avez approché les forces armées burkinabées pour en savoir davantage?
On a documenté 116 exécutions présumées commises pour les forces de l'ordre, dont 19 incidents. Dans les incidents, les gens décrivent comme la dernière fois que le suspect était vous, était sous la garde de la force de l'ordre, et la prochaine fois qu'ils étaient vous, c'était mort. On a partagé nos conclusions et aussi les recommandations avec plusieurs personnes dans le gouvernement burkinabé, parmi eux certains membres de la force de l'ordre et aussi le ministre de Défense m'a écrit une lettre le 18 mars dans laquelle il a promis d'enquêter les incidents contenus dans notre rapport.
Est-ce que vous êtes confiant quant à la suite que le Burkina, le gouvernement burkinabé va donner à ce rapport-là?
On attend parce que c'est très important parce qu'on avait remarqué que les leaders communautaires des différents groupes ethniques se sont dit préoccupés que les abus commis pour la force de sécurité poussaient les habitants à joindre les rangs des islamistes armés.
Corinne Doufka, directrice exécutive à Human Rights Watch, chargée de l'Afrique de l'Ouest, joint ici à Washington.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, et nous vous en parlions hier, le député de Yopougon et une figure du PDCI, Zié Daouda Koulibaly, a constitué ce mercredi un nouveau mouvement à Toun pour éviter une seconde crise post-électorale. Proche du vice-président Daniel Kablan Duncan, ce mouvement envisage une caravane de la réconciliation qui va parcourir le pays. Pour une analyse, Eric Maniratkiza a joint à Abidjan un journaliste indépendant et analyste politique, Ferro Bali.
Ce NM mouvement m'apparaît comme une arnaque politique, simplement pour faire un chantage à la peur, ou alors pour essayer de remuer le couteau dans la plaie par rapport aux élections de 2010. Monsieur Zié, qui est député à l'Assemblée nationale, a quitté officiellement le PDCI pour adhérer au mouvement de Monsieur Kablan Duncan. Il milite au sein du RHDP Parti Unifié. Donc Monsieur Zié ne peut pas créer un mouvement dit de réconciliation. Il devient donc un acteur de la crise au PDCI-RDA.
Mais le principe même de la réconciliation, c'est une bonne chose.
Oui, on ne peut pas dire non et tourner le dos à une réconciliation. Quand un divorce est prononcé entre deux partenaires, ce n'est pas en tampant le tam-tam qu'on amène les partenaires à reprendre la vie conjugale rompue. Leurs réactions, leurs agissements sont destinés plutôt à exacerber les clivages entre le PDCI et le RHDP unifié.
Donc pour vous, c'est pour affaiblir davantage le PDCI?
C'est l'objectif final. Parce que je me dis, au PDCI, RDA et dans les partis ivoiriens en général, les mouvements sont interdits. M. Adjoumani a créé son mouvement sur les traces du président Fouboigny. Son mouvement a été déclaré interdit. Cela n'a pas donné leçon au vice-président Kablan Duncan, qui a créé lui aussi un mouvement qui qui se fait appeler PDCI Renaissance. Et ce mouvement fait des campagnes à un bureau, parcourt le pays, etc., pour mobiliser les militants et les Ivoiriens en général à adhérer au RHDP unifié. Dans ce cas, le travail qui est en train d'être entrepris n'est pas d'aider le PDCI, mais c'est plutôt de le fragiliser, ou alors, comme le disait Jenny Kobinan, qui était secrétaire général du RDR, de réduire le PDCI à l'état de vestige au nord et de relique au sud.
Dernièrement, Guillaume Soro a aussi annoncé un mouvement politique. Est-ce que vous pensez que c'est dans la même continuité?
2020 annonce des débats contradictoires. Pour moi, cela participe du dynamisme politique ivoirien. Soro Guillaume a quitté effectivement également aussi le RDR, s'est rapproché du président Henri Konan Bédié et a annoncé un mouvement politique qu'on appelait le Conseil politique. Pour moi, cela participe du dynamisme politique ivoirien. Et cela ne devrait faire peur à personne. Ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire en 2010, c'est le non-respect des décisions de nos institutions qui conduisent à des situations déplorables comme celles que nous avons vécues. Donc, il ne suffit pas de faire des campagnes dans le souci d'obtenir le parti unique comme sous le feu Boigny, ce qui n'est plus possible.
C'était Ferro Bali, journaliste indépendant et analyste politique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Ce vendredi devrait être un nouveau jour de mobilisation massive en Algérie où la grogne populaire ne faiblit pas. Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il prolongeait son quatrième mandat au-delà du 28 avril, son terme constitutionnel, et ce jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale et spécialiste de l'Algérie, Riyad Sidaoui.
Oui, je pense, oui, le pouvoir algérien aujourd'hui dans l'impasse, je pense même plus, il est en train de vivre une situation révolutionnaire. Je voudrais dire, pas situation révolutionnaire, la présence de trois facteurs éléments en même temps. La radicalisation de l'opposition, les divisions au sein du pouvoir, puis la position de l'armée, neutralité de l'armée, ou trahison de l'armée vis-à-vis des pouvoirs. Je vois bien actuellement ces trois éléments présents dans le cas algérien.
Peut-on assister à une récupération par les islamistes, à votre avis?
Ce n'est pas maintenant. Pour le moment, on voit la majorité sont les activistes de la société civile radicale, des gauches, des démocrates. On ne voit pas des islamistes aujourd'hui. Mais après des élections libres, transparentes, peut-être que les islamistes, on les connaît tous, sont très forts dans la capacité de la mobilisation et de l'organisation. Mais à mon avis, l'armée algérienne, c'est une armée nationaliste qui va toujours barrer la route contre tous les extrémistes ou ceux qui revendiquent la violence.
Y a-t-il un risque d'essoufflement alors que le président Bouteflika a indiqué que la transition pourrait durer jusqu'en 2020?
Non, parce qu'il y a un problème au plan de la constitution algérienne. Soit on applique l'article 102 de la constitution algérienne, ça veut dire que le président est incapable d'exercer le pouvoir, soit l'article 107, ça veut dire déclencher l'état de l'exception. C'est encore plus que l'état d'urgence. Là, le président pourrait avoir plusieurs pouvoirs, mais là, on applique cet article, l'article 107, que dans les cas extrêmes. Par exemple, une guerre totale en Algérie ou la menace directe des institutions de la République. Or, on n'a pas cette position. Donc, comment sortir? Le président a annulé les élections. Comment il pourrait rester au pouvoir après le 28 avril? Il n'y a aucun article dans la Constitution algérienne qui pourrait couvrir cette période d'après 28 avril.
Mais la Constitution ne pourrait pas être amendée ou modifiée?
Non, c'est trop tard. Déjà, la Constitution a été modifiée plusieurs fois. Lui, ce qu'il demande, et à mon avis, ce n'est pas Bouteflika lui-même. Bouteflika est gravement malade, mais c'est son entourage. Plutôt son frère, Saïd Bouteflika, dans ses lettres à la télévision nationale algérienne, ce qu'il demande de lui, c'est tenir une conférence nationale qui va organiser des élections et après ces élections, je me retire. Mais les manifestants refusent, chaque vendredi refusent, et les manifestations sont le jour de vendredi, pas parce que ce sont des islamistes, mais parce que c'est le jour férié pour les Algériens, c'est le vendredi.
Riyad Sidaoui, spécialiste de l'Algérie et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.